9FM. La biodiversité samedi, le rendez-vous nature de Nov avec le syndicat mixte de la baie de Bournaz.
Nous sommes samedi 1er avril au programme de la biodiversité samedi. Un acteur justement de la biodiversité, mais tout simplement du territoire, le syndicat mixte de la baie de Bourgneuf, invite aujourd'hui Jean-Noël Pitot à nous parler du hibou des marais et de la fauche tardive. Un titre plein de mystères et de promesses. Bonjour Jean-Noël.
Bonjour Emmanuel.
On va vous présenter, on vous connaît évidemment sur le territoire, déjà comme saunier à l'épine.
Oui, je suis saunier sur l'épine depuis 18 ans maintenant.
Un petit paquet d'années, 18 ans. Qu'est-ce que vous avez fait jusque-là? Quel est votre parcours professionnel?
Eh bien, avant d'arriver au Marais, j'étais animateur nature, c'est-à-dire que je faisais découvrir l'environnement naturel, principalement aux écoles.
Donc la nature, une passion depuis toujours. Vous êtes naturaliste, revendiqué, engagé, membre de la LPO, la Ligue pour la protection des oiseaux, également du réseau Paysans de Nature. C'est important pour vous de vous investir?
Oui, en fait, ça me paraît tellement naturel que voilà, c'est dans l'ADN, en gros, du naturaliste. C'est vraiment, quand on voit cette nature, ben, on a aussi envie de la protéger, quoi.
C'est une vieille histoire qui remonte à l'enfance, cet amour de la nature?
Ah oui, c'est des trucs d'enfants. Je pense que tous enfants, on était passionnés par les toutes sortes d'animaux. Et puis petit à petit, en gros, ça a été vraiment le déclic aux alentours de 20 ans où j'ai rencontré quelqu'un qui protégeait les oiseaux, les rapaces, les vautours fauves. Et là, ça a été le déclic, ouais.
À votre tour, vous êtes passionné pour les oiseaux, les rapaces. Alors justement, le syndicat mixte de la baie de Bourgneuf, je le dis régulièrement, donc organise chaque mois cette émission, me propose des invités et ne choisit pas ses invités par hasard et les thèmes par hasard. Pourquoi vous, pour le hibou des marais?
Alors, parce que sur mon territoire, c'est-à-dire Noirmoutier, c'était un oiseau connu et puis il a disparu en tant qu'oiseau nicheur et on l'a revu il n'y a pas longtemps.
Vous allez nous raconter tout ça, effectivement. Vous allez nous présenter cette espèce connue sur le territoire mais qui à un moment donné a disparu, qui revient. Le hibou des marais est aussi un peu partout dans le monde. On l'appelle communément le hibou des marais.
Oui, c'est ça qui est assez drôle. Alors, même si en anglais ils disent short-eared owl, c'est-à-dire le hibou aux petites oreilles, mais enfin, ils disent aussi march owl, c'est-à-dire le hibou des marais. Les deux se disent, en fait, c'est parce que partout dans le monde, on va le retrouver sur des zones de ce qu'on appelle, nous, des prairies humides, quoi. Pas que, mais principalement.
Alors, vous avez parlé de ces petites oreilles. À quoi ressemble le hibou des marais? Qu'est-ce qui le distingue des autres hibous?
Alors, ils disent oreilles, mais ce sont des aigrettes, c'est-à-dire ces petites plumes là sur la tête. C'est ce qui va faire la différence entre, en français, entre ce qu'on appelle une chouette et un hibou. Donc, tous les oiseaux qu'on appelle hibou en français ont ces aigrettes sur la tête. Sur le hibou des marais, bah, elles sont peu ou presque pas visibles. En vol, bah, c'est impossible à voir. Il est très semblable au hibou moyen-duc qu'on peut retrouver un petit peu partout dans nos villages, nicheur dans les, plutôt lui dans les pins. Donc la différence entre les deux hiboux, on a le hibou moyen-duc qui a l'iris de couleur orange et le hibou des marais, l'iris de couleur jaune. C'est le vraiment en vol, lorsqu'on les observe aux jumelles, c'est le moyen sûr de pas se tromper, quoi.
Il a une belle robe aussi, une couleur particulière.
Ouais, une couleur fauve, on va dire, du jaune orange, couleur sable, très 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 belle couleur. Et on en reparlera à la reproduction. Il y a aussi des couleurs très claires sous le ventre et sous les ailes.
Qui doit montrer peut-être aux femelles, j'imagine, on va en parler tout à l'heure. C'est un rapace d'assez petite taille?
Oui, c'est un rapace de taille, on va dire, moyenne, pour nos rapaces de chez nous. C'est 1 mètre d'envergure environ, pour un poids de 400 grammes, avec 350. On va dire que les mâles sont, chez les rapaces, toujours un petit peu plus petits que les femelles. Ce qu'on n'imagine pas, ce qu'on imagine toujours, que les mâles sont les animaux les plus importants. Et en fait, chez les rapaces, c'est le contraire. La femelle est toujours un petit peu plus forte.
On connaît son espérance de vie, le hibou des marais?
Alors, j'ai pas révisé, mais j'imagine que ce genre d'espèce peut vivre 15-20 ans.
Ce qui est pas mal aussi pour un oiseau.
Ce qui est pas mal, ce qui réduit assez fortement son espérance, je pense, pour cette espèce, ça va être les déplacements, les migrations. C'est un migrateur.
On va en parler aussi, hein, oiseau migrateur, oiseau de nuit, évidemment, quand on parle d'un rapace, mais pas seulement pour cette espèce-là.
Ben oui, presque, on pourrait même dire quasiment diurne, parce que il est très présent le matin, tôt le matin, un petit peu au crépuscule. C'est plutôt un oiseau qui va profiter de la lumière du jour comparé à d'autres rapaces nocturnes comme la chouette hulotte dont on connaît le chant, qui est elle vraiment, ou même la chouette effraie, vraiment eux strictement nocturnes.
Alors, on va évoquer tout à l'heure sa présence sur l'île de Noirmoutier, particulièrement depuis 3 ans. Alors, pourquoi? Et surtout aussi dans ces zones humides précieuses, vers les marais. Donc, on imagine bien. Où est-ce qu'on peut le voir, ce hibou des marais, en France et en Europe, par exemple?
Alors, pour replacer, en gros, en Europe, on peut le trouver là. Tout à l'heure, on parlait de marais. Alors, c'est un peu moins vrai, par exemple, en péninsule ibérique, où on peut le retrouver sur des zones de prairies sèches, de quasi-steppe. C'est des populations, on va dire, assez rares. Le reste de l'Europe, ça va ressembler plutôt à ce que nous, on a, mais ça peut être dans des paysages de landes, par exemple, comme en Auvergne, des paysages de landes aussi qu'on peut imaginer en Écosse ou dans de la toundra en Scandinavie. Donc, il niche assez loin au nord, hein, au-dessus de la taïga. Donc, et puis, on le retrouve de manière assez drôle un petit peu partout dans le monde, hein. Même paysage, on va dire, en Amérique du Nord. Donc, en gros, pour nous, Europe, Asie, sur ces zones de prairies fraîches, plutôt humides. Et puis aussi en Amérique du Sud, en Argentine, Chili, il est présent sur ce genre d'endroits aussi.
C'est un migrateur, donc effectivement, on le retrouve aussi dans des contrées un peu plus chaudes. Et puis, vous l'avez dit, on le retrouve nicheur sur l'île de Noirmoutier depuis 3 ans, son retour. Alors, pourquoi, comment, réponse dans 3 minutes. To myself, I don't wanna know. nouvel épisode de la biodiversité samedi avec le syndicat mixte de la Baie de Bourgneuf, labellisé Ramsar. Il promeut la biodiversité et nous propose chaque mois d'en savoir plus sur une thématique en particulier. Aujourd'hui, le hibou des marais, une appellation, on l'a vu, qui n'est pas réservée aux marais bretons vendéens. Jean-Noël Pitot, notre invité, mais justement, voilà, un nom qui est promu un petit peu dans le monde entier. On le retrouve donc sur l'île de Noirmoutier, entre autres, j'imagine peut-être aussi sur le continent.
Oui, oui, il est très, très commun sur les zones de marais, des polders de Boin, de Beauvoir, enfin, dès qu'on a des belles prairies qui retiennent un petit peu l'eau avec une végétation assez dense, il est présent.
Où est-ce qu'il s'installe? Quel est son habitat?
Alors, c'est pareil, on a toujours un petit peu l'idée que les oiseaux font leur nid dans un arbre. Cet oiseau-là niche au sol. En gros, on pourrait retrouver son nid là où on pourrait trouver un nid de canard colvert, par exemple. C'est au sol, dans une végétation très dense.
Qu'il va effectivement récupérer aussi pour lui-même construire son nid.
Donc, il va s'installer sur une zone qui n'a jamais été utilisée. Hein. L'idée, c'est d'être le plus discret possible. C'est le couple qui va faire le nid, principalement, bien sûr, la femelle, mais les deux sont acteurs de la nidification.
On le retrouve nicheur dans le nord-ouest vendée, sur l'île de Noirmoutier. Et vous nous disiez donc qu'il a effectué un retour en 2020 après un temps de disparition.
Oui, alors, sur l'île de Noirmoutier, on le connaissait nicheur en période de reproduction jusqu'au milieu des années 80, certainement 90. Après, c'est un oiseau discret, donc il faut aussi des observateurs. Mais ensuite, il n'a pas été retrouvé. On le connaissait migrateur de passage ou en hivernage, c'est-à-dire qu'il passait l'hiver chez nous. Et en 2020, en plein milieu du confinement, donc on se remet, là on est fin mars, début avril, quasiment à la période là où on se parle. Et en fait, on vit à une période assez intéressante pour la nature, parce que en fait, tout le monde se doit d'être chez soi, donc il y a peu de gens qui se promènent dans le marais. Et là, j'entends le chant du hibou des marais. Et même si c'était pas un chant que je connaissais par cœur, parce que j'ai pas l'habitude de l'entendre, ben en fait, je sais que c'est lui.
À quoi il ressemble, ce chant?
Ben, c'est un on va dire très classique de hibou. Donc, un son très grave, qui ressemble à rien d'un autre oiseau, donc on comprend très vite que c'est un hibou. Et puis après, j'ai eu l'occasion d'en observer un, d'en observer deux, et puis de commencer à voir les parades. Et là, en gros, mais ça, je pense que tout le monde l'a pu l'observer lors de ce premier confinement. En fait, c'était pas drôle, mais en même temps, on a pu voir des choses dans la nature incroyables. Ce retour là, du hibou à Noirmoutier.
Et là, par exemple, 2023, il est de retour aussi?
On est à la bonne période de retour. Donc là, c'est encore la migration. Donc, j'attends le retour du vrai soleil, parce que là il fait encore un peu frais, on a encore un petit peu de pluie. Donc dès que on va avoir des journées qui vont être un petit peu plus ensoleillées avec des températures plus sympas, je devrais l'observer.
Bon, on l'espère pour vous. On sait d'où il viendra, où est-ce qu'il passe l'hiver?
Alors certainement que les populations de chez nous passent l'hiver en péninsule ibérique. Au maximum en Afrique du Nord, Maroc par exemple. Pour les populations nicheuses chez nous, c'est pas un très grand voyageur. Par contre, pour ceux qui nichent, comme on évoquait tout à l'heure, ceux qui nichent au-dessus du cercle polaire, en Scandinavie par exemple, eux, c'est sûr qu'ils vont jusqu'en Afrique du Nord, voire même passer le Sahara.
Et donc ils arrivent au printemps, voilà, ils vont pas tarder à arriver, nos hiboux des marais. Ils viennent nicher donc sur le territoire. Est-ce qu'on connaît, ils viennent aussi se reproduire en fait ici. On connaît le cycle de reproduction, des parades aussi, je crois, sont connues sur cette espèce.
Oui, c'est le moyen qu'on a pour confirmer en tout cas les doutes. C'est-à-dire que quand moi j'ai entendu le chant, bon, c'est un bon indice, mais le fait de voir les parades, alors les parades, c'est pareil, ça va être quelque chose de très évident, en fait, même si on connaît pas les oiseaux, le fait de voir ce vol. Donc, je disais, dans son plumage, il a le ventre blanc et le dessous des ailes blanches. Enfin, en tout cas, très clair. Et ce qu'il va faire, c'est que il va lever les ailes assez haut. Donc, en fait, il va mettre en évidence un petit peu ses couleurs très claires. En gros, il va se montrer bien en femelle. C'est aussi un message aux autres mâles pour dire ici c'est mon territoire. Mais c'est un moyen de le repérer. Donc, il le fait pour ses congénères. Mais nous, c'est voilà quelque chose. Presque de facile à observer.
Et la reproduction, donc, je crois qu'une femelle peut pondre beaucoup d'œufs.
Oui, beaucoup ou pas beaucoup. En fait, c'est très drôle sur ces espèces-là. C'est très vrai sur les rapaces nocturnes, les chouettes et hiboux. En gros, pour qu'il y ait une reproduction, il faut que le mâle montre qu'il est bon chasseur. En fait, c'est deux choses. C'est-à-dire que plus il va ramener de proies à la femelle, plus donc il augmente ses chances de reproduction, mais plus elle voit aussi qu'il y a une capacité à nourrir plus ou moins la famille. Donc c'est-à-dire que les années où il y a peu de proies, bien il y a une faible ponte, on va dire 2, 3, 4, et puis les années où c'est plus fort, ça peut monter à 6, 7, 8, c'est assez rare mais ça existe. Donc j'ai cette possibilité, voilà, de pondre, on va dire, de 1, 2 œufs à 8 œufs.
C'est incroyable l'adaptation, évidemment, des animaux, des oiseaux. C'est le mâle qui va apporter la nourriture au tout petit dans les premières semaines. Alors, ensuite, de quoi se nourrit un hibou des marais?
Alors le hibou des marais, comme beaucoup de nos rapaces nocturnes, c'est des micro-mammifères, c'est-à-dire des petits rongeurs. Donc ça va être ce qu'il y a le plus sur le territoire, c'est les campagnols. Donc on ne se rend pas compte, mais les mammifères les plus nombreux autour de nous sont les campagnols. Il y a diverses, d'ailleurs, espèces de campagnols. Ça peut être des mulots, donc espèces de, on va dire, de souris. Ça peut être des musaraignes, qui sont eux, des petits carnivores. Voilà, ça va être ses proies principales. Plutôt mammifères, mais après, il peut peut-être aussi attraper des oisillons, d'autres espèces, enfin voilà, ou des gros insectes, ou des gros lézards. On va dire que ça, c'est à la marge.
Alors, à noter que le hibou des marais est une espèce protégée, fragilisée aussi ces dernières années. J'ai pas mal de questions à ce sujet pour vous. Jean-Noël Pitot, on vous retrouve dans quelques instants.
Découvrez Signorizza, votre nouveau restaurant italien dans votre galerie Hyper Uchelant.
Signorizza, de délicieuses pizzas cuites devant vous dans nos fours à bois.
Signorizza, c'est aussi une variété de plats italiens revisités et une équipe pleine de vitalité.
Ouvert 7 jours sur 7, midi et soir.
Signorizza, passionnément pizza.
Pour votre santé, bougez plus.
Pneumatique Chalandais est une entreprise locale et proche de chez vous. La satisfaction client est notre priorité et nos équipes sont à votre disposition pour tout conseil. Jusqu'au 15 avril, la TVA est remboursée pour l'achat et le montage de 2 ou 4 pneus Goodyear ou Dunlop. Et pour l'achat et la pose d'un jeu de disque, vos plaquettes sont à seulement 1 euro. Alors, go ! Anthony, Guillaume et leurs équipes vous accueillent 22 rue Gustave Eiffel à Chaland, du lundi au vendredi, de 8h30 à midi et de 14h à 18h, et le samedi, de 8h à midi.
Voir conditions en magasin.
Vous recherchez un emploi? Vous souhaitez donner un nouvel élan à votre carrière? Venez rencontrer votre futur employeur. Le Courrier Vendéen et Actu.fr organisent leur premier job dating en partenariat avec Pôle emploi et la mission locale. Pour une première prise de contact, des entreprises vendéennes seront à votre écoute. Venez déposer votre CV auprès de professionnels du secteur, ce qui leur permettra de mieux vous connaître à travers votre parcours professionnel. L'entrée est gratuite. Job dating, le mardi 4 avril de 10h à 17h30, salle Louis-Claude Roux à Chaland.
Vous connaissez Jules Bonnier? C'est le skipper du bateau Nesten, un jeune marin de 27 ans. Il est arrivé 17e à la route du Rhum. Chez Nesten, on aime raconter qu'on lui a porté chance. Mais en réalité, il a surtout cru en ses rêves. Vous aussi, vous pouvez croire en vos rêves. Et pour vous aider à vous lancer dans votre projet immobilier, Nesten vous offre l'estimation de votre maison, appartement ou terrain. Et si c'était le moment de lever l'ancre? Agence Nesten, à Chaland et Beauvoir-sur-Mer.
Imaginez-vous dès cet été plonger dans une piscine bleu azur, vous détendre au soleil, inviter les amis, la famille, puis replonger dans la piscine. Vous ne rêvez pas, c'est encore possible d'avoir votre piscine pour cet été. Avec MDV Piscine et Spa, plusieurs modèles et combinaisons sont proposés. Piscine coque, traditionnelle et spa. Laissez-vous porter par les conseils et l'accompagnement de professionnels. MDV Piscine et Spa, rue de Chaland à la Garnache. Info ou devis gratuit sur mdv-habitat.fr.
Voir conditions en magasin.
Dans la biodiversité samedi, ce samedi 1er avril, nous parlons du hibou des marais avec Jean-Noël Pitot, je rappelle, saunier sur l'île Noirmoutier, puis membre de la LPO, du réseau Paysan de Nature, naturaliste. Vous nous parlez de ce petit rapace, de ce moyen rapace que vous côtoyez sur l'île. Vous m'avez dit en voir. Justement, combien, à votre avis, d'individus on retrouve sur l'île, voire dans le nord-ouest Vendée? C'est un oiseau qui est assez rare quand même.
Oui, c'est un oiseau qui est assez rare. Il y a plusieurs dizaines de couples sur le marais breton et sur Noirmoutier. Moutier, de source sûre, un couple, probablement deux, probablement. Donc on disait 2020, on a confirmé sa présence. Il y a eu échec par contre. Les œufs n'ont pas éclos. Peut-être la prédation, peut-être, enfin, il y a tout un tas de facteurs. 2021, ça a marché. Il y a eu 4 ou 5 jeunes, je sais plus, de mémoire, je pense 5 jeunes, vraiment, les 5 jeunes à l'envol, en fait, c'est ça qui est important. C'est-à-dire 5 jeunes qui ont réussi leur envol, parce que tant qu'ils sont dans le nid, en fait, c'est assez difficile de savoir. Sachant qu'on dit que il y a à peu près la moitié des oiseaux qu'on va voir, volants, qui vont revenir. C'est des chiffres, très généraux hein, sur les oiseaux, mais ça nous donne à peu près une idée, c'est-à-dire s'il y en avait 4 volants, l'année suivante on peut en espérer en revoir 2. L'an dernier, probablement un couple, mais pas de confirmation, parce qu'il est discret.
Et c'est vers chez vous en fait, puisque vous l'avez entendu, c'est vers votre marais?
Oui, c'est ça, c'est vers mes marais, quelques dizaines de mètres. Mais il s'est déplacé un petit peu l'année suivante, mais il était dans la même zone, donc je pouvais voir les parades, donc on savait qu'il était présent. Même si à cette période-là, on va dire qu'on va commencer la prospection là du mois d'avril jusqu'au mois de mai, bah il est pas simple à trouver quand même. Il reste discret.
On va le guetter avec vous. On sait que la population des hiboux des marais a beaucoup diminué ces dernières décennies. C'est une espèce qui est protégée aussi, mais voilà, il y a une chute drastique qui a été évoquée. On sait pourquoi.
Dans une de ses particularités, on disait tout à l'heure, c'est un migrateur et c'est un des rares oiseaux nocturne, enfin un rapace nocturne à être migrateur. Tous les autres qu'on connaît autour de chez nous, à part le hibou petit duc qui passe l'hiver lui en Afrique, sont migrateurs. Et donc ça veut dire que lorsqu'il se déplace sur ces zones d'hivernage, eh bien il peut être confronté à, déjà le voyage peut être difficile, et puis les ressources en alimentation, ça va être ça sa limite en fait. Et on parlait tout à l'heure de l'Afrique du Nord qui se porte mal, parce que je vais vous parler de quelque chose qui n'étonne plus personne maintenant, c'est la sécheresse. J'ai eu la chance de faire un tour au Maroc il y a de ça 3-4 ans, et je partais pour observer les oiseaux des zones humides, et j'étais déçu parce que en fait les zones humides là-bas elles disparaissent. Donc voilà, ça fait partie des raisons en gros pour ce qui n'est pas de notre fait sur le territoire.
Et justement, vous vouliez parler du hibou du Cap hein, qu'on retrouve en Afrique, que vous avez pu observer.
Oui, le hibou du Cap, c'est un proche cousin du hibou des marais. Il se ressemble vraiment. Là, du coup, l'iris est tout noir. Et lui, plutôt un mangeur de gros insectes. Et ce qui m'a le plus marqué, en fait, c'est là où j'ai réalisé en fait notre problème vis-à-vis de la protection de la biodiversité, c'est qu'il est encore présent sur des zones de réserves naturelles, on va dire à fort enjeu de protection, mais que sur ces endroits-là, et en fait c'est ce que j'ai pu constater un peu partout où je me suis promené, c'est que tout autour des réserves naturelles, eh bien souvent il y avait ou beaucoup d'urbanisme ou une agriculture assez intensive, hein, donc je parle de modèles vraiment forts, de zones complètement couvertes par des tunnels. On parle là des fraises qui viennent de sortir. En gros, cette zone-là au Maroc, c'est là où il y a les grosses productions de fraises qu'on reçoit en ce moment. Donc c'est pas une agriculture qui est très écolo, très riche en plastique, qui couvre toutes les surfaces, et puis très polluante. Et malheureusement, c'est ce qu'on constate un petit peu partout, c'est que, eh bien, les endroits les plus importants, en tout cas pour les zones humides, eh bien, sont un petit peu grappillés à chaque fois par la présence de l'homme.
Je rappelle aussi que le thème de l'émission, c'est le hibou des marais et la fauche tardive. Alors, j'arrive très tardivement sur le sujet. Pourquoi le syndicat mixte de la baie de Bourgneuf proposait ce lien?
C'est ce qu'on disait au tout début. C'est un oiseau de prairies, de zones humides, de végétation en général dense, même s'il y a certains endroits où je disais qu'il est aussi capable de nicher dans des landes ou dans des steppes un petit peu plus pauvres. C'est quand même des endroits où en général, soit il y a de l'élevage et il y a du pâturage, ou soit il y a de la fauche. Et comme on le disait tout à l'heure, il y a le fait que ces oiseaux nichent au sol, avec, on le racontait, des nichés qui peuvent être de 2, 3, 4, 5, 6, 7 petits. Et ça a une grande influence parce que la couvaison va commencer dès le premier œuf, enfin l'incubation pour être plus précis. C'est-à-dire qu'une fois que la femelle hibou des marais a pondu un œuf, elle va commencer l'incubation. Donc ça veut dire que lui, il va éclore avant le deuxième qui va arriver un jour ou deux après, un jour et demi environ. En gros, c'est pas un œuf tous les jours, mais on sera plutôt un jour et demi environ. Enfin, ça veut dire que entre le premier et le deuxième, il y a un décalage, mais entre le premier et le cinquième ou le sixième, il y a un vrai décalage. C'est-à-dire qu'on quasiment on peut avoir des oiseaux qui sont encore en duvet pour certains, et puis d'autres qui sont proches d'être volants. Et ça veut dire que ça période au nid, sa présence sur le nid, donc à terre, est assez importante. Ça va arriver. Donc là, on est au mois d'avril. En gros, ils vont commencer à s'intéresser à la reproduction là, au courant du mois. Les mâles vont arriver les premiers, les femelles vont s'installer. Bon, on va dire, c'est une histoire de 3-4 jours pour faire le nid, quelques jours qui vont suivre, et puis ça y est, ça va être la ponte. Mais on arrive déjà fin avril. Donc, en gros, l'incubation, c'est environ 28-30 jours. Donc, ça veut dire que ça va correspondre à une période de fauche pour un agriculteur. C'est au moment où, en gros, l'herbe est la plus intéressante. C'est là que, eux, ces oiseaux-là, sont vraiment fragiles parce qu'ils n'ont aucun moyen de s'échapper. Les petits sont en duvet, ils se déplacent au sol, mais en gros, c'est là où on essaye d'avoir une action pour interpeller les agriculteurs en prévenant. En général, ça marche très très bien, hein. Juste tout le monde est assez sensible à ces espèces-là, donc on essaye de créer une zone autour du nid quand on arrive à les repérer. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que même sur un territoire assez petit à Noirmoutier, il y a des fois on n'arrive pas à repérer le lieu de nidification.
Et on passe à côté. Merci beaucoup pour ce partage. On le rappelle, le hibou des marais, c'est une espèce qui est protégée en France, en Europe. Il est interdit de la capturer, de la chasser évidemment. On arrive à la fin de l'émission. J'avais pas mal de questions, mais c'est tellement passionnant. Jean-Noël Pitot, je ne sais pas si vous le savez, mais en fin d'émission, je pose toujours une question. Vous êtes un fervent défenseur de la biodiversité. À votre avis, que ne doit-on pas rater pour sa défense? Alors, en règle générale, je ne parle pas que des hiboux. À côté de quoi on ne doit pas passer pour protéger notre biodiversité?
Moi, je pense que par rapport à ce qu'on se disait tout à l'heure sur ces sites, là où on a à côté une grosse protection, une grosse zone de protection, une réserve naturelle, et puis à côté on se retrouve avec une forte présence de l'homme, et ben il va falloir qu'on casse un petit peu ça, que on laisse plus d'espace à la nature sauvage et que on tolère ou qu'on laisse plus d'espace en gros dans nos zones à nous où on est présent. Ça va être ça le à mon avis, l'enjeu.
Qu'on libère la nature. Merci beaucoup, Jean-Noël. On va retrouver l'émission en podcast et puis un nouveau rendez-vous dans un mois, premier samedi de chaque mois en mai. Je sais qu'on va parler des laisses de mer.